Radio Capi, grand témoin. William Lassie Swing, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, est aujourd'hui l'invité de grand témoin. William Swing, en septembre prochain, vous aurez 73 ans. Quelle est la ville qui vous a vu naître?
J'étais né en Caroline du Nord, dans le sud des États-Unis, dans une petite ville qui s'appelle Lexington, fils d'une paysanne qui a gagné son vie avec des vaches. Et c'est une vie qui m'a conduit éventuellement à l'université.
En grandissant, vous étiez quel genre d'enfant? Têtu, timide, turbulent?
J'étais toujours un peu timide. Je suis le dernier de 5 enfants. Toujours un peu réticent en public, mais avec l'avancement de ma carrière, je n'ai pas le choix, j'ai dû me forcer d'être un peu plus extroverti.
Après vos études, vous entrez au département d'État. Quelles études vous avez faites?
J'ai une expérience académique un peu différente que les autres, dans le sens, bon, mon premier diplôme, c'est en histoire. Mais après ça, j'ai fait 3 ans d'études en théologie protestante. J'ai étudié à l'université de Yale, aux États-Unis. Après, j'ai fait 1 an en Allemagne et en Suisse, avec des théologues allemands et suisses.
Et pourquoi la théologie? Vous vouliez devenir pasteur?
Au début, j'avais cette intention. Après, j'ai changé un peu. Je voulais être professeur de théologie. Et à la longue, j'ai découvert que le lien n'était pas nécessairement d'aller dans la profession religieuse, mais plutôt de rentrer dans une carrière de service public. Et c'était le concept de service qui m'a attiré depuis cela.
Et dans la diplomatie particulièrement, qu'est-ce qui vous a attiré?
Bon, d'abord, je voulais être quelqu'un qui sert le public américain dans les services consulaires, mais très tôt, je m'évoluais dans une carrière plutôt des affaires politiques pour devenir ambassadeur.
Quel genre de musique congolaise aime William Swing?
Moi, j'ai dit, comme avant, les anciennes, des années de 60-70, parce que c'est l'époque où je suis venu la première fois en Afrique centrale. Je n'ai pas beaucoup avancé dans mon groupe, parce que j'ai un peu moins de temps que normal.
En parlant de musique, il y a un artiste congolais du nom de Mirani Kanza, que vous devez certainement connaître.
Oui.
Qui, pour vous, a composé la chanson Peace and Love in RDC. Je vous invite à la suivre.
Mesdames et messieurs, et vous tous, chers Congolais, nous venons de finir le second tour des élections en choisissant un des deux candidats. Maintenant, le processus démocratique continue. Et notre souhait et qu'à l'annonce du résultat final, qu'aucune personne dessus utilise le trouble et le désordre. Ainsi, moi, Cook Swing, je veux mettre la paix et le calme dans la ville de Kinshasa et partout dans la RDC. Ok, right. Ça va swinguer. Que Dieu bénisse le Congo et nul notre nation. Coco Swing, entre en jeu, personne ne va tirer, arme rouge, arme vert, personne ne va tirer, arme noire, arme blanche, personne ne va tirer, quand Coco Swing, entre en jeu, personne ne va tirer.
William Lassie Swing, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, comment vous avez réagi la première fois quand vous avez entendu cette chanson?
Bon, j'étais évidemment touché par le geste d'une jeune Congolais de faire ce DVD. Moi, je trouve que c'est très professionnel. J'avais un peu de crainte au début. Je pense, mais qu'est-ce que va penser les autorités? Est-ce qu'ils pensent que j'essaie de avoir beaucoup plus de publicité pour moi que normal? Mais à la longue, j'étais soulagé de voir que même les autorités sourient aussi quand on l'écoute. Et maintenant, ma famille a beaucoup apprécié aussi cette geste.
Et je vous ai vu aussi cligner les yeux hein, quand on citait Coco Swing. Ça vous inspire quoi?
Bon, j'ai dit Mira, je ne connais pas avant. Il est venu me voir quelques semaines ou même quelques mois après la musique est apparue. Et je lui ai dit que vous avez le Coco Swing, c'est pas vous et c'est pas moi. C'est un caractère maintenant et un peu indépendant de nous deux.
William Swing, vous avez une riche collection de langues. Vous parlez l'anglais, le français, l'allemand, l'afrikaans et le créole de l'Haïti. Vous apprenez aussi le lingala?
J'ai essayé d'apprendre le lingala il y a plus que 25 années à Brazzaville. Et au retour comme ambassadeur en 98, j'ai repris mes leçons. J'ai eu deux très bons professeurs ici. J'ai parlé beaucoup plus de lingala pendant cette période, mais en revenant en 2003, je suis devenu peut-être un peu paresseux. Je ne prends plus de leçons, mais je continue de collecter les proverbes, les sagesses congolaises que j'utilise souvent dans mes discours. Parce que il y a une grande sagesse dans les proverbes. Aussi, je crois que c'est apprécié quand on sait qu'on a fait au moins un effort d'apprendre un peu mieux la culture congolaise. Et moi, j'aime beaucoup la langue.
Parlant des proverbes congolais, il y en a un que vous citez souvent qui dit « Si le poisson te dit que le crocodile est malade, il faut le croire puisque les deux vivent dans l'eau. » Pouvez-vous le dire en lingala?
Oui. « Soki mbisi e yebisiyo te ngando azale na maladi indimele ye impono bango banso bafandaka na mai. »
Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Ça veut dire pour moi, il faut être toujours à l'écoute du peuple. Il faut suivre la sagesse locale. Il ne faut pas essayer d'imposer vos idées, votre perspective, sans avoir d'abord écouté le peuple et la sagesse. Et je crois que c'est un bon conseil pour nous tous, parce que il ne faut pas oublier que le monarque est là pour soutenir, pour assister. Nous ne sommes pas là pour d'autres choses.
C'est avec plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui. Grand témoin reçoit pour vous Eve Bazaïba Massoudi, sénatrice, membre du mouvement de libération du Congo MLC et présidente de la commission socioculturelle au Sénat. Le Sénat a dernièrement adopté la loi sur le statut de l'opposition politique en y apportant quelques modifications. Jusqu'à la promulgation de cette loi, il y a encore du chemin à parcourir.
Bien entendu.
Pensez-vous qu'elle va faciliter le fonctionnement de l'opposition?
D'abord, en ce qui concerne cette loi, l'opinion doit savoir que ça fait partie de l'arsenal juridique qui doit émaner de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du pacte international sur les droits civils et politiques qui proclame la liberté de tout citoyen. Tout citoyen, donc d'un État, de pratiquer la politique. Alors, mais il faut un cadre juridique pour se faire dans notre pays et c'est cette loi-là sur les statuts de l'opposition, d'autant plus que pour parler démocratie, il y a la majorité au pouvoir et puis il y a l'opposition donc qui est constituée de la minorité qui sert de contrepoids, qui est le miroir pour la gestion. Donc cet équilibre-là est nécessaire. Autant la majorité, son exercice est réglementé par les institutions de la République, par la constitution de la République, autant l'opposition aussi doit avoir cette loi-là pour sécuriser ceux qui sont des opposants. Donc ce n'est pas parce que je suis au Sénat que j'ai l'immunité, je peux parler au nom de l'opposition. Même ceux qui ne sont pas dans les institutions, qui n'ont pas gagné les élections, qui n'ont pas participé dans les processus électoraux, le fait seulement d'être ceux-là qui doivent critiquer l'action du gouvernement de manière démocratique, doivent être protégés par les lois de la République. Il y a la Constitution et il y a cette loi-là.
La sénatrice Eve Bazaïba est également une ménagère. Nous nous sommes rendus à son domicile où son mari nous a fait visiter la maison.
Docteur Massoudi, le mari de maman Eve Bazaïba Massoudi, sénatrice.
Et là, nous sommes où?
Nous sommes chez moi. C'est la maison de la famille. C'est ici où nous habitons. En bas, il y a la polyclinique où de temps en temps, je consulte. Et nous habitons en haut, puisque la maison est à un niveau.
Est-ce que nous pouvons voir la maison?
Volontiers.
On peut y aller. Nous dirigeons dans la maison avec le docteur Massoudi. Nous passons à l'entrée de la clinique.
On peut monter.
Nous montons les escaliers. Nous sommes dans la maison. Docteur, vous nous proposez de commencer par où?
Si vous voulez, commençons par la cuisine.
Je suis précédé du docteur. Nous entrons dans la cuisine.
Bonjour, Mme Bazaï.
Bonjour, je suis le nom Mangaza. Il est né de Mme Bazaï.
Elle a le temps de préparer souvent aussi.
Si elle prépare malgré beaucoup de préoccupations.
Qu'est-ce qu'elle aime préparer souvent?
Le fait de manger le pondou, elle est riche.
Comment elle partage son temps entre les activités ménagères, la cuisine?
Souvent, le dimanche, elle fait le ménage à la maison.
Mais je présume que vous aimez la cuisine de votre femme.
Bien sûr, parce que souvent, c'est le soir hein, où absolument, c'est elle-même qui tient à s'occuper de moi. Ce qu'il y a de la cuisine, elle le fait souvent.
Docteur, nous quittons la cuisine pour vous.
Oui, après ici, nous pouvons aller vers le salon. Avant d'y accéder, nous avons d'abord le couloir.
C'est Mme Bazaïba qui est en train de repasser.
Elle repasse les habits et des enfants, les habits de tout le monde, de la famille.
Elle le fait chaque matin?
Ce n'est pas tous les jours, mais au besoin. Enfin, elle est là pour ce travail. Ici, c'est le salon. Souvent, lorsque nous venons de service, on se repose ici le soir quand on n'a pas grand-chose à faire. En train de discuter un peu de tout. Ce qui fait que aussi nous discutons de la politique. Hein.
Nous venons de quitter le salon. Nous nous dirigeons vers le cabinet.
Là, on redescend les escaliers.
Nous sommes dans le cabinet du docteur. Le docteur a pris place là où il a l'habitude de consulter les patients. L'attachement pour votre femme n'est pas à démontrer, hein, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas chez elle?
C'est par moments lorsqu'elle adopte une attitude dure à l'endroit des autres. Parfois, je suis là pour lui demander de tempérer. De temps en temps, il faut lui demander de réfléchir avant de poser un acte.
Docteur, nous allons quitter le cabinet. Vous nous proposez d'aller où maintenant?
Je voudrais aussi sortir d'ici, que nous puissions demander aux parents qui sont là derrière.
Docteur, c'est votre père?
Oui, monsieur, c'est mon père, Jennifer.
Je vous remercie, docteur, pour la visite.
C'est moi qui vous remercie.
Lundi 17 juillet dernier, il s'est ouvert le tout premier congrès de l'opposition extra-parlementaire ou non institutionnelle. D'après le journal L'Avenir qui donne cette information, ce congrès a été organisé par Gabriel Mokia, professeur d'Indo, et Christian Badibangi, trois leaders de ce mouvement. Ce congrès de deux jours avait comme objectif de réfléchir sur beaucoup de questions de l'heure, comme l'affaire Kaemba, le massacre du Bas-Congo, et la loi portant statut de l'opposition politique déjà votée par le Parlement. Il faut signaler, toujours d'après L'Avenir, l'absence de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et du G14 du docteur Kabamba. Quelle lecture vous faites de ce congrès, Eve Bazaïba?
Bon, d'entrée de jeu, je veux vous dire, je suis parmi les Congolais qui se sont battus pour le multipartisme intégral. Donc, libre cours à tout le monde de pouvoir réfléchir en termes politiques et s'organiser. Quand chaque fois nous parlons de nous mettre ensemble dans une plateforme de l'opposition et tout, ce n'est pas pour consacrer les monolithiques au sein de l'opposition. Autant nous refusons un monolithique politique, que ce soit du côté de la majorité de l'opposition, nous voulons l'expression libre. Mais la lecture actuelle, c'est de les encourager et puis ceux qui ne font pas partie prenante de ces congrès, qu'ils organisent aussi les congrès. J'ai appris que l'UDPS allait organiser son congrès. Et les questions d'actualité dont de l'heure, il y a les statuts de l'opposition et toute autre chose, je crois que ça rentrera dans la matière à discuter. Le plus important, c'est que même si on aborde plusieurs approches, mais que ça converge dans un même objectif, la promotion, la protection de l'opposition, le respect de l'opposition, au finish, que la population soit bénéficiaire.
Sénatrice Eve Bazaïba, les auditeurs de Radio Okapi s'intéressent aussi à la politique. Ils ont encore quelques préoccupations, prenons celle de Kananga.
Famille Kamba, à Kananga. Je voudrais poser la question à Madame Eva. Elle est sénatrice, elle est membre de l'UN. Quelle est sa réaction et sa position par rapport à l'arrivée du leader du MLC? Et qu'est-ce que vous pouvez espérer d'elle pendant quelques semaines?
Tous nous voulons qu'il y rentre et il est dans cette démarche-là de rentrer, d'autant plus que c'est un sénateur. On ne peut pas parler sécurité tant que les esprits ne sont pas réconciliés. Il faudrait absolument la puissance publique qui se trouve actuellement entre les mains du chef de l'État, c'est à lui d'abord de rassurer les autres et en échange, les autres vont se sentir en confiance. Ça, on doit seulement trouver la possibilité pour pouvoir lui donner un cadre qui va accueillir sa famille et à ses enfants qui doivent revenir pour étudier et tout. Il va venir et il est en train de venir.
Et il doit surtout revenir pour être le coordonnateur de l'opposition. Hein?
Je ne peux peut-être pas parler de l'évidence, mais ce qui est évident, on légifère de manière impersonnelle, mais pas abstrait. La loi est impersonnelle, mais elle doit être concrète.
Radio Capi, Ok.
Salut à tous. Son nom, Koudoura. Autre nom, Kasongo. Prénom,
Mwane Loba.
Et c'est un prénom congolais, en fait.
Oui, tout à fait. Mwane Loba, c'est le fils de Loba. Loba, c'est un nom qu'on retrouve aussi bien au Katanga que dans le Kassai et qui vous, vous savez, si vous connaissez l'histoire, nous sommes très proches les uns des autres.
D'accord. Donc, Koudoura, Kasongo, Mwane Loba, vous l'avez entendu. Grand témoin approche celui qu'on connaît comme le porte-parole du chef de l'État. Et il n'a pas refusé notre invitation. Nous lui disons merci d'être venu.
Il n'y a pas de raison à refuser l'invitation.
C'était un accident d'être journaliste.
Oui, c'est, moi, je m'ai destiné à une carrière de footballeur. Mais disons, je voulais faire le droit parce que je fais de la part philo. Et je voulais être un grand avocat, un grand orateur pour défendre les faibles. Disons, au quotidien, j'essaie effectivement de me battre pour aider les personnes vulnérables. Et d'ailleurs, dans le combat politique qui est le mien, lorsque j'ai créé le Fonds pour l'intégration sociale, le FIS, c'est justement ce combat-là.
Brièvement, expliquez-nous comment vous êtes arrivé à être porte-parole du chef de l'État.
Ah, mais ça, je ne vous dirai pas. Mais disons, ce que je peux vous dire, c'est que le président m'appellera pour me demander si je pouvais être son porte-parole. Et je me dis tout de suite. Voilà. Donc, c'est quelqu'un que j'aime personnellement, et c'est quelqu'un que j'apprécie, et dont je partage mes idées et convictions politiques. Donc, dès lors qu'il m'a proposé, il n'y a même pas réfléchi.
Il y a aussi une autre affaire à laquelle le procureur général de la République s'intéresse beaucoup, c'est la demande en ce qui concerne la levée d'immunité du sénateur Jean-Pierre Bemba. Monsieur Koudoura, ces deux affaires concernent deux opposants. Est-ce que ça ne met pas le pouvoir actuel mal à l'aise ?
Il faut que ça soit clair qu'on ne peut pas s'opposer à quelque chose qui est démocratique et légal. Je ne peux pas comprendre. Nous sommes dans un état de droit, mon cher Georges. Nous sommes dans un état de droit. Et l'état de droit veut que, heureusement ou malheureusement, que nous ayons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et vous avez même entendu Maître Mukendi, que je salue au passage, il n'a pas dit que c'est illégal. Il n'a pas dit. Mais dans une démocratie, l'avocat général peut parfaitement introduire une requête, comme c'est le cas. C'est légal. Qu'on soit opposant ou pas, le fait d'être de l'opposition, ça ne vous donne pas plus de droits que ceux qui ne sont pas ou ceux qui sont, ou d'autres qui sont. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est que qu'il y ait une régularité des procédures. Si la procédure elle est respectée, tant mieux.
Voilà. Vous êtes sûr que, par exemple, la présidence de la République ne pourra pas influencer la justice ?
Non, il faut cesser de réfléchir comme ça. Si nous étions dans une dictature, et que si nous devions juger, par exemple, tous les opposants qui ne pensent pas comme le chef de l'État, et qui, par conséquent, il faut les écraser, elles ne sortiraient pas de la prison.
Et donc, vous pensez aussi que l'immunité de Jean-Pierre Bemba
est bien entendu. Pourquoi est-ce qu'on doit protéger un criminel ? Il y a un problème d'éthique. Lorsqu'une justice demande la levée d'une immunité d'un compatriote, ben on doit l'accorder. Bien entendu, là aussi, il y a une procédure à suivre. Il faut que le Sénat, en l'espèce, se prononce. Mais il ne faut pas que nous donnions l'impression dans notre pays d'avoir une justice à deux vitesses. Une justice pour les faibles, comme toi, Georges, comme Alain, comme moi, qui je n'ai pas d'immunité, et il faut protéger. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est vrai que la loi prévoit d'immunité pour que les parlementaires, hommes ou femmes, puissent s'exprimer librement et qu'il faut se protéger pour que les dirigeants qui se sentent interpellés ou frustrés ou blessés par le propos, qu'ils ne puissent pas, à n'importe quel moment de leur intervention, se saisir d'eux et bloquer la démocratie.
Radio Capi, grand témoin.
Heureux de vous retrouver dans Grand Témoin. Félix Tshisekedi n'a pas refusé notre invitation. Nous lui disons merci et bienvenue.
Merci, Père Kamoujoura.
Alors, ceux qui nous écoutent ont fait eux-mêmes aussi la relation. Félix Tshisekedi est le fils de Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS. C'est quelqu'un, pour lui, en Belgique, c'est une surprise, mais c'est quelqu'un qui est proche, très proche même de lui, je dirais. Salut, Christian.
Ah, bonjour.
Christian Tshisekedi, vous êtes les jeunes frères de Félix, alors dites-nous ce qu'il représente pour vous.
Beaucoup, hein, beaucoup depuis mon jeune âge, donc on a toujours évolué ensemble.
Voilà.
C'est quelqu'un qui m'est très cher, il n'y a pas de problème.
Voilà, alors quand je vous ai annoncé, il a un peu sursauté, je crois qu'on doit lui laisser aussi manifester son étonnement.
Ouais.
Ah oui, c'est
parfait. Bah, il est en direct, je suppose. Hein.
Ouais.
Ça va, Julien ?
Oui, ça va.
Ah, d'accord. Ben, comment ça va là-bas ? Comment ?
Ça va. Ouais, c'est la surprise, moi, ouais. Tantôt, là, c'est la surprise. Donc,
absolument, même moi, je n'en reviens pas. Moi, je pensais que ça allait se passer autrement. Non, mais c'est, je suis tout ému, là.
Alors, vous parlez souvent au téléphone ou vous vous écrivez. Alors, Radio Capi vous permet un peu de vous retrouver. Christian, alors, votre frère avec nous au studio, s'il vous était demandé, par exemple, de lui dédicacer un disque, ce serait lequel?
Bon, je choisirais, si moi je dois dédicacer, parce que bon, je sais que ça va le faire plaisir, si je dois lui dédicacer un disque, je choisirais l'album de Kofi, le tout dernier, Le Danger de Mort, et la quatrième chanson, Pharmacien.
Ah, Pharmacien, pourquoi Pharmacien?
Ben non, comme ça, hein. Disons que bon, c'est une chanson que j'aime beaucoup, et je suppose que lui aussi l'aime beaucoup, donc... Voilà.
Et vous, Félix, vous aimez Pharmacien? Vous aimez Kofi en particulier?
Oui, oui, c'est l'une de mes idoles. Hein, oui. J'aime beaucoup comme artiste. Oui.
À part Kofi?
Ben, je suis plutôt de la génération Zaïko, comme on dit. Hein. Nous, on a été bercés par le rythme de Zaïko, mm-hmm. la langue. Et ben, c'est l'orchestre qui m'a le plus marqué dans mon enfance.
D'accord, merci beaucoup. Alors, Christian, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous vous disons au revoir, mais vous, okay. Vous laissez avec un pharmacien de Kofi Olomidé.
Ok.
Désolé de ne pouvoir arriver jusqu'au bout avec Pharmacien qui nous a été proposé par Christian Tshisekedi. Vous suivez, vous, grand témoin sur Radio Capi, un entretien avec Félix Tshisekedi, vice-président de l'UDPS Belgique-Luxembourg. Alors, l'UDPS qui est sorti un peu de son sommeil la semaine dernière. Alors, pour ce parti, le processus politique et électoral est un échec. La preuve donnée par les présidents du comité national, Valentin Moubaké, ben, ce sont les affrontements de mars dernier à Kinshasa et les troubles du Bas-Congo qui ont fait une centaine de morts. Alors l'UDPS estime qu'il faut revenir au dialogue. Est-ce ça aussi la position de l'UDPS à l'étranger, Félix?
Forcément, parce que bon, la direction politique se trouve ici à Kinshasa, mais je voudrais, si vous permettez, revenir sur ce que vous avez dit au début de votre intervention en disant l'UDPS sort de son sommeil. Non, absolument pas. Évidemment.
Après les élections, bien sûr, l'UDPS a un peu sommeil.
Je comprends que les gens le prennent ainsi, mais en restant un peu attentif, on va remarquer que l'UDPS a toujours été en avance sur les événements. Nous avons toujours prédit ce qui arriverait, parce que les membres de l'UDPS ont souffert dans leur chair pour un objectif, un idéal, c'est-à-dire l'état de droit.
Radio Capi, grand témoin. Avec le même plaisir pour le même devoir, grand témoin accueille aujourd'hui Adam Bombole Intole, député national, membre du mouvement de libération du Congo MLC et opérateur économique.
Monsieur Adam Bombole, l'autre fois tu étais un homme d'affaires, on t'est chanté dans des musiques, on t'est lancé par-ci et par-là. Maintenant que tu es devenu un homme politique, honorable Adam Bombole, est-ce que si aujourd'hui on te chante encore dans les musiques comme les JB, les Warason, est-ce que cela va te faire plaisir? Comment tu vas te sentir?
Réponse Adam Bombole.
Ben, je n'en rougirai pas, ça me fait toujours plaisir, puisque Adam Bombole est député, il vient de la masse, député, il reste toujours près de la masse, il ne va pas prendre, comment dirais-je, de la hauteur puisqu'il est député aujourd'hui. C'est d'abord la population qui m'a élu, et je crois que les musiciens aussi contribuent dans beaucoup en ce qui concerne l'épanouissement de la société, donc il n'y a pas à rougir sur ces plans.
Peut-être pour un peu plus de précision à cet auditeur, c'est vous qui demandez que les musiciens vous lancent dans leurs chansons ou c'est eux qui vous sollicitent?
Non, j'ai jamais rien demandé. Musiciens, je crois que c'est une façon pour eux de me remercier de tout ce que j'ai fait pour les musiciens et pour beaucoup de Congolais.
Certaines personnes vous accusent d'entêter les enfants en rupture familiale, communément appelés chègue, en leur distribuant de l'argent.
Non, j'essaie avec mes petits moyens de les encadrer, puisque contrairement à ce que les gens croient, contrairement à l'opinion répandue par une certaine catégorie des gens, les chègues ne sont pas dans la rue par plaisir. Moi, j'ai commencé à côtoyer les chègues depuis plus de 20 ans. Et je sais que parmi les chèques, il y a des enfants qui sont en rupture avec leur famille suite aux conditions sociales exécrables dans lesquelles ils vivent. Moi aussi, ayant connu un moment donné de ma vie, la faim, la moindre chose, c'est de leur donner de quoi s'acheter un morceau de pain. Mais avec l'envahissement de rue, je commence maintenant à remarquer qu'il y a même des bandits qui se font passer pour des chèques. Mais j'essaie de discerner qui est le vrai chèque et qui est un chèque circonstanciel.
Et qu'est-ce qu'Adam Bombo les pourrait faire pour les chèques concrètement?
Non, je voudrais que d'abord l'État mette des structures en place pour canaliser les énergies, pour canaliser comment le financement en ce qui concerne l'assistance aux chèques. Puisque même moi, sur le plan personnel, je suis embêté. Chaque fois que je sois quelque part, c'est toujours
il me suit, il s'accroche à votre voiture.
Je vais au restaurant, il y a les chèques qui envahissent les parkings. Bon, c'est assez pénible. Mais je ne peux pas non plus les repousser. Je me débrouille tant mieux que mal. Mais si aujourd'hui, puisque récemment j'ai été invité par un groupe d'handicapés qui se sont organisés, mais là, je sais au moins que si assistance à apporter aux handicapés, je passe par tel mécanisme, par tel créneau, par telle personne.
C'est bien canalisé.
J'ai envie aussi que l'État songe à définir des structures pour aider les chèques. Et à ce moment-là, tous ceux qui sont animés de bonne volonté, tous ceux qui ont des moyens pour assister, il ne faut pas oublier, ce sont nos enfants. Nous ne devons pas les laisser en permanence dans la rue. Il faut un jour que l'État, que les pouvoirs publics trouvent des mécanismes pour les encadrer. Et je crois que ces mécanismes, s'il y a volonté, c'est facile à trouver.
Nous avons quelqu'un en ligne pour vous. Nous allons lui donner l'occasion de se présenter lui-même.
Je m'appelle José Bombolé, relation de famille, de frère.
José Bombolé, votre frère est très étonné, hein, il a même mis son mouchoir à la bouche pour qu'on n'entende pas son étonnement. Adam Bombolé, réaction?
Non, lui c'est, comme il a dit, frère, hein, on a grandi ensemble, donc c'est une relation de plus de 50 ans, si je peux dire.
C'est votre grand frère, votre petit frère?
Non, il a un an plus que moi.
Donc, c'est votre aîné.
Enfin, il est aîné par rapport à moi.
Vous êtes de la même famille, hein?
Oui, nous sommes de la même famille.
José Bombolé, dites-nous, quel souvenir d'enfance pouvez-vous rappeler à votre frère pour nos auditeurs?
C'était un garçon très intelligent quand nous avons fait des écoles primaires et secondaires. Alors, il était toujours dans ses livres, juste à ce qu'il manquait même de sommeil. Alors, lui, c'était la journée, les romans, tout ça là. Écoute, aussi un footballeur, et puis un peu trop bagarreur aussi.
Trop bagarreur.
Je battais pour lui. Les gars provocateurs, c'était lui. Moi, je lui battais pour lui. Il lui provoquait les gens et c'est moi qui assurais la défense. C'est moi.
Vous reconnaissez, je dis que c'est vous qui étiez le provocateur.
Ah, ben oui, moi, je provoquais, je lui faisais la défense. Et puis, écoute, il nous fait la force.